Bien. Alors, pollution de l'eau, une question de Suzanne. Si une pollution chimique arrive dans notre belle eau nettoyée, petit poussé, que se passe-t-il? Ben, faut faire les essais. Je ne peux rien dire par rapport à ça parce que ben, moi, je peux pas être partout à la fois. Donc, je compte sur vous pour faire des expérimentations. Donc, prenons de l'eau codée PP. Vous attendez qu'elle soit montée à 200, à 300 ou à 500, et puis ben, vous lui balancez un bouchon de javel. Vous voyez. Après, vous pouvez prendre toujours une eau de référence à par exemple 10-500, puis vous lui balancez un coup de Roundup. Puis vous voyez ce qui se passe. Il faut faire les essais. Je ne peux pas être partout et tout faire. Hein. Je compte sur chacun d'entre vous et sur votre intelligence et votre créativité et votre démerde. Démerdise, hein, enfin bref, démerdez-vous au mieux, vous pouvez faire tous les essais. Il n'y a aucun essai qui est idiot, croyez-moi. Aucun. Une question de amour sur une bouteille de référence. J'ai une bouteille en verre remplie d'eau avec cristal de roche encodé que je protège avec un papier alu. Elle est posée par terre dans un endroit frais. Cette bouteille est la bouteille de référence. Laurent, tu dis que nous ne devons pas boire l'eau de la bouteille de référence. La bouteille de référence sert-elle uniquement à encoder l'eau qui n'a pas de cristal de roche encodé? Pourquoi ne pouvons-nous pas boire l'eau de la bouteille de référence, même en très petite quantité? Alors, ça, c'était par rapport à la version V1. Donc, c'est une question qui n'a plus lieu d'être en V2. La question était enfin, par rapport à la V1, c'est-à-dire que quand vous buvez, ce que vous ne savez pas, c'est que vous mettez vous-même. Quand vous buvez, vous croyez que vous êtes une pureté. Non, c'était là, vous avez sur les lèvres des bactéries, des machins, vous avez un certain nombre de vie, on va dire. Et donc, quand vous buvez directement l'eau de référence, eh bien, vous polluez votre eau de référence par des éléments chimiques. Et donc, on revient tout à l'heure à ce que je disais, c'est-à-dire que tant que vous conservez la mémoire de l'eau sans apporter aucune modification chimique, vous avez le truc parfait. Si par contre vous apportez une modification chimique, alors à ce moment-là, ben vous risquez d'avoir des effets secondaires. En effet, imaginez que vous prenez une bactérie XYZ qui pour vous est totalement, on va dire, bénéfique. Elle se développe dans votre référence parce qu'elle trouve que c'est vachement bon et que c'est le nirvana. Et se développant, eh bien, elle peut intoxiquer quelqu'un d'autre. Donc, c'est pour ça que j'avais dit ça. Hein. J'avais dit que fallait pas. Il ne faut pas boire à la bouteille de référence. Bon, maintenant, on peut dire que c'est totalement différent par rapport à la V2. La V2, 1, que la bouteille soit en verre ou pas, on s'en fout complètement. Parce que je peux vous dire qu'on s'en fout. Là, vraiment, on s'en fout. La deuxième, c'est le papier alu, il n'y a plus besoin. La troisième, la cage de Faraday, il n'y a plus besoin. La quatrième, la maintenir au frais par terre sur le calage, il n'y a plus besoin. Vous voyez, bon, je ne dis pas qu'il faut la mettre en plein soleil sur le balcon et la laisser comme ça. Non. Hein, il faut, disons, la conserver à température normale. Parce que j'ai remarqué que quand même, il pouvait y avoir des différences en fonction du degré d'ensoleillement et si on laisse trop. Parce que le soleil va encoder, on va dire, les molécules. Et donc, va, de ce fait, charger les molécules d'eau. Et donc votre encodage qui est atomique, il va peiner un peu pour pouvoir continuer à monter en fréquence, enfin en puissance. Donc c'est pour ça que j'ai remarqué que quand on met de l'eau encodée et puis qu'on attend et qu'on la met en plein soleil, elle progresse moins vite en termes de puissance que si vous la mettez pas au soleil. J'espère que vous comprenez la différence. Hein. Donc voilà, donc aujourd'hui, moi personnellement, je n'ai plus aucune bouteille de référence. Ça a eu été un aspect important avant. Aujourd'hui, j'en ai plus. Pourquoi? Parce que toutes mes bouteilles deviennent référence. Et je la bois sans problème. Pourquoi? Parce qu'à ces niveaux de puissance, de toute façon, c'est tellement nettoyé que quelle que soit la chose que vous puissiez avoir, c'est pas un problème. Et quand je dis c'est de l'eau de consommation, c'est de l'eau que je bois. Donc, quand je commence à boire à la bouteille, je bois cette bouteille. Une question de Corinne, juste pour me faire une idée. Ton eau de référence est montée à 10 puissance 600. En combien de temps? Alors, c'est simple. Maintenant, je suis presque à, je vous dis, théoriquement, ce soir, je devrais être à 1600. Donc, globalement, Ça dépend encore des conditions d'expérimentation. Ce que je veux dire, c'est que dans les débuts, je n'ai pas voulu faire un quelconque boostage, on va dire, par le feu du cœur. C'est-à-dire que j'ai tout simplement pris de l'eau du robinet et j'ai pris 3 bouteilles. Enfin bon, j'ai fait plusieurs essais, hein, faut comprendre. Donc, j'avais commencé par des bidons 5 litres. Après, je me suis rabattu sur des litres, des bouteilles d'un litre et demi. Et parce que j'ai vu que quand c'était 5 litres, bah, ça mettait du temps quand même. Alors qu'en 1,5 litre, les réactions étaient plus rapides. Hein, je vous dis, c'est la quantité. C'est-à-dire que si vous faisiez les essais dans un verre, ça irait encore plus vite. Donc, le truc, j'ai pris 3 bouteilles, hein, que j'ai numérotées 1, 2, 3 sur le bouchon. Et la première bouteille, j'ai mis de l'eau avec un cristal encodé, juste, sans rien d'autre. Ensuite, en fait, c'est la 3, celle-là. Alors, première, excusez-moi, je reprends. La première, j'ai mis de l'eau qui était à 10 puissance 100, pile. Elle était à 100. Alors, j'ai dit, je mets à 100. Au moins, je sais. Et j'ai mis une pierre. De l'eau ouais, de l'eau, une pierre. La deuxième, j'ai mis de l'eau à 100, une pierre, et que j'ai rajouté, complété avec de l'eau du robinet. Et la troisième, j'ai mis simplement de l'eau à 100 avec de l'eau du robinet et pas de pierre. Pardon. Et le résultat, ben, j'ai rien fait de spécial, je les ai laissées les unes à côté des autres et j'ai dit voilà, j'attends. Et donc effectivement, la bouteille où il n'y avait pas de pierre a eu du mal à décoller. Hein. C'est-à-dire que sur les 3 premiers jours, elle était complètement à la ramasse. C'est normal, puisque les autres quasiment démarraient à 100, quoi. C'est-à-dire que les 2 premières bouteilles, à la fin de la première journée, l'eau était déjà à 100, tranquille, quoi. Alors que l'autre a peiné, je crois, à 40. Donc, peiné à 40, quoi. Et puis, bah, arrive à un moment, elle a récupéré son retard. Elle a récupéré son retard, et il a fallu au moins une semaine pour ça, pour qu'elle arrive à peu près à être en phase avec les autres. Et après, quand elle a été en phase, bah, elle a continué à progresser comme si de rien n'était. Et je me suis dit, ok, maintenant on a 3 eaux qui sont équivalentes. Très bien. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais mettre un feu du cœur sur la bouteille numéro 3, c'est-à-dire celle qui n'a pas de pierre. Et je vais mettre un feu du cœur et je vais voir ce qui se passe par rapport aux autres qui ont le pierre. Et c'est là que j'ai découvert que l'eau où j'avais fait un feu du cœur a augmenté rapidement, très rapidement. Et le truc, c'est que mes 3 bouteilles, ils étaient, on va dire, en ligne. Il y avait 1, 2 et 3. Et ce qui se passe, c'est que la 2 montait aussi en puissance, et la 3, enfin la numéro 1, elle montait en puissance, mais moins vite. C'est-à-dire, ça faisait comme un escalier. Et je me suis rendu compte qu'en fait, quand on fait un feu du cœur à une bouteille, eh bien, ce feu du cœur se propage à la deuxième bouteille et ensuite à la troisième bouteille. Et ils n'étaient pas côte à côte, hein, c'est-à-dire qu'ils avaient une distance entre. Donc, je me suis rendu compte que tout ce qui est proche d'une bouteille encodée avec feu du cœur, ce feu du cœur se propage aux autres bouteilles autour. Alors là, j'ai dit, ok, d'accord. Alors, le lendemain, bah, j'ai pas réencodé, j'ai dit, j'attends pour voir qu'est-ce qui se passe, si ça fait un palier, si ça fait quelque chose, ou si on continue toujours sur la même courbe. Et puis, bah, j'ai vu que ça continuait toujours sur la même courbe, qui était donnée par le feu du cœur, ça continuait. J'ai dit, ok, bon, maintenant, je commence à m'avoir un peu marre de mesurer tout ça, je voudrais quand même savoir ce qui se passe, quoi, parce que, bon, je vous avouerai, je prenais 3 mesures par jour, le matin, le midi et le soir, et je commençais à m'avoir un peu marre. Donc j'ai dit bon, on va mettre un peu le turbo, quoi. Hein. Et donc j'ai décidé de faire un feu du cœur tous les matins sur la bouteille numéro 3. Et là, bah, ça s'est littéralement relevé. Ça a décollé, quoi. Et donc j'ai mis ça sous un tableau Excel, et qui a bien sûr un côté graphique qui nous permet de montrer de voir les courbes directement. Et là, j'ai pas fait le détail, je mettais simplement les valeurs atteintes chaque soir, hein. Et le résultat est surprenant, c'est-à-dire que dès que l'on fait un feu du cœur, la vitesse est, c'est comme si vous avez appuyé sur l'accélérateur. C'est impressionnant à la vitesse à laquelle ça monte. Donc, à cet effet, vous allez avoir théoriquement sous peu, d'ici deux jours, on va dire, par rapport à cette conférence, je pense, vous allez avoir les fameuses méditations de Guise concernant le feu du cœur. Alors, je vous conseille bien sûr fortement de les suivre, et vous allez voir de combien, à ce moment-là, vous allez pouvoir monter la patate, on va dire, assez tôt en commun. Alors bien sûr, faire du feu du cœur à l'arrière, ça va être un peu dur. Mais n'empêche que vous pouvez, effectivement, par exemple, quand on parlait de prendre une eau qui a été encodée à 10 puissance et des brouettes et que vous allez lâcher dans la rivière, faites-y un feu du cœur juste avant. Et vous allez voir que ça va être encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort. Donc, on a vraiment beaucoup d'outils. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en tant que marcheur sur le chemin, qu'en tant qu'humain, qu'humanoïde, nous avons une puissance pas infinie, mais quasiment. Et là, vous aurez la preuve par vous-même. C'est pour ça que je vous dis de faire les essais. Ne me croyez pas, faites les essais. Et vous verrez que c'est contagieux. C'est-à-dire que au niveau, moi je mets les bouteilles dans un bac, vous savez, une caisse pour pas que les bouteilles se cassent la gueule, eh bien, je mets 12 bouteilles dedans. Eh bien, les deux qui sont au centre, puisque vous avez trois rangées avec quatre colonnes, eh bien, les deux qui sont au centre, vous faites un feu du cœur. Et toutes les autres qu'il y a autour en profitent. Comme ça, vous n'avez pas à vous faire chier de faire un feu du cœur à chaque bouteille. Vous faites sur les deux au milieu et vous laissez faire. Vous voyez, on peut être efficace. On peut être efficace. Donc maintenant, aujourd'hui, je dirais qu'à la maison, le minima de l'eau qu'on boit, c'est 10 puissance 500. C'est, y a pas de tout. Y a aucune eau dans la maison qu'on boit qui est en dessous des 10 500. Alors, il est évident que si vous montez l'eau à 10 puissance 1000 ou plus, et que vous mettez à boire ça alors que vous n'avez aucune préparation, vous allez, bien sûr, avoir quelques ennuis, réels et sérieux, puisque votre corps va se retrouver avec de l'or liquide, quoi. C'est-à-dire. Et donc là, il va se mettre en décrassage maximal. Et vous risquez donc d'avoir de grosses difficultés physiques derrière en évacuation. Alors bien sûr, puisque ça nettoie, parce que ce que beaucoup de gens n'ont pas compris apparemment, c'est que cet encodage de la B2 ne joue pas seulement sur le plan physique, elle joue sur vos 12 corps. Donc ça veut dire qu'elle décrasse non seulement vos tuyauteries physiques, mais elle décrasse aussi les autres enveloppes corporelles. Les autres auras, quoi, on va dire tout ce qui compose votre aura d'une manière ou d'une autre. En clair, eh bien, vous allez aussi recracher des mémoires, vous allez recracher des blocages, vous allez recracher beaucoup de choses. Donc, comme dirait l'autre, comme des questions qui m'ont été posées plus loin que sur le bébé, n'y allez pas trop fort. Allez-y gentiment, prenez des petites gorgées, ou ne montez pas l'eau trop en puissance, allez-y tranquillos, parce que si vous voulez griller les étapes, il n'y a pas de problème, mais il ne faudra pas venir vous plaindre qu'après. Vous arrivez plus à arquer, et vous comprenez plus comment ça se passe, parce que vous serez tellement fatigué, crevé, parce que votre corps, lui, il va foutre le maxima. Or, si on a eu des petits problèmes d'approvisionnement en pierre, c'est parce qu'il y avait aussi une super lune. Et que, croyez-moi, que ce qui se passe dans l'invisible, ils savent quelles sont les choses qu'on peut faire et ne pas faire. Et donc, je trouvais quand même relativement anormal d'avoir autant de délais dans les livraisons, et la réponse m'est venue plus tard, bien sûr, comme d'habitude, c'était la super lune. Voilà. Une question de Bruno. L'eau polluée et encodée sera toujours polluée, non? Alors ça, c'est un truc à faire. Parce que, bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on dit pollué, c'est pollué par quoi? Parce que vous avez, comme je l'ai dit tout à l'heure, une pollution dite chimique, c'est-à-dire par des éléments chimiques, chlore, enfin des tas de saloperies qui sont des molécules, et ensuite vous avez la pollution qui est en termes d'information. Donc il y a deux types de pollution, une pollution d'information et une pollution chimique. Donc la pollution d'information, ça le programme B2, il vous le corrige sans problème, d'accord, hein. Imaginez que l'eau qui est utilisé dans certains trucs pour refroidir, par exemple, je vous dis un truc con, mais il y a de l'eau qui est utilisée pour refroidir les centrales atomiques. Enfin, le circuit secondaire, on va dire, d'une centrale astomique, hein, c'est-à-dire généralement sur des tuyaux avec du sodium liquide, c'est-à-dire du sel fondu. Alors, bah, ce sel fondu, il faut le refroidir, hein, parce que bah, si on ne le refroidit pas, il ne peut pas récupérer la chaleur des atomes et donc il ne peut pas chauffer plus. Donc il y a une perte énorme, on va dire, de combustible nucléaire. Donc pour avoir un meilleur rendement, il faut refroidir ce sodium liquide. Hein, sodium liquide, je vous dis, c'est du sel. Hein. Donc c'est un cristal liquide. Et donc il faut le refroidir. Et donc il est refroidi par des tours de refroidissement où on balance de l'eau sur les tuyaux de telle manière que et vous avez des grands nuages de vapeur d'eau. Dites-vous bien que cette eau qui est vaporisée est totalement encodée en termes vibratoires, en termes mémoriels, de toutes les saloperies qui s'est passée dans le sodium liquide et donc à l'intérieur de la centrale nucléaire et donc de l'explosion, de la fission de l'atome. En clair, c'est une saloperie sans nom. Donc même si on dit mais c'est juste de la vapeur d'eau, c'est pas gênant, chimiquement, c'est de l'eau, elle est pure, elle est évaporée, il n'y a rien avec. Mais en termes d'information, c'est une crasse sans nom. Donc vous pouvez avoir une eau pure, chimiquement parlant, au-dessus d'une tour de refroidissement d'une centrale nucléaire. Et là, les autres, ils disent, mais attends, on condense. Il n'y a strictement rien. Il n'y a aucun autre atome. Vous ne trouverez rien. Pas de plomb, pas de manganèse, pas de chlore, rien. Vous aurez de l'eau pure, H2O pure. Sauf, elle est tellement encodée négativement que vous en crèveriez d'une certaine manière. Donc, dites-vous bien que tout ça, ça monte dans les nuages et qu'on se le ramasse. Donc ça, c'est une pollution informationnelle. Par contre, vous pouvez avoir une pollution, on va dire, chimique lourde. Hein, c'est-à-dire que, par exemple, vous allez regarder, on va dire, à côté d'un puits de pétrole, parce qu'il y a des fuites hein, quand même, et puis vous regardez ce que le puits de pétrole, enfin le pétrole, fait à la flotte. Et là, vous allez avoir une pollution chimique réelle et sérieuse. Si vous allez du côté de Lyon, et puis vous allez voir toutes les saloperies qui sont déversées dans le Rhône, vous ne serez pas déçu du tout. Parce que c'est vraiment, ils appellent ça la vallée de la mort, et il y a une raison. Donc ça, c'est de la pollution chimique, mais donc dangereuse pour notre corps physique, mais elle est certainement, en termes d'information, moins dangereuse que l'eau qui s'échappe, entre guillemets, des tours de refroidissement des centrales nucléaires. Donc comprenez bien la différence entre une pollution, on va dire, de l'information contenue dans les mémoires de l'eau, de la pollution chimique. Or, jusqu'à maintenant, on m'a dit, ce qui est fait par l'homme devra être défait par l'homme. En clair, ça veut dire que la pollution chimique, c'est nous qui la créons. Donc ça sera à nous de la défaire. Par contre, la pollution informationnelle, là, apparemment, la V2, on nous a fait un cadeau divin, et là, la V2, c'est simple, elle efface tout. Donc comme elle efface tout, l'eau va retrouver sa puissance originelle, tout simplement. Donc ce n'est pas que l'eau trouve des super pouvoirs, c'est qu'on va la libérer, on va la libérer de tout ce qui l'emprisonnait en termes d'information. Donc c'est pour ça qu'elle redonne la vie et qu'on va vers une puissance infinie. Donc cette puissance infinie, c'est simplement la puissance des autres dimensions. Car je vous rappelle que si nous avons 12 brins d'ADN, il faut savoir qu'il y a 12 enveloppes. Il faut savoir que l'eau possède bien sûr ces 12 enveloppes, puisque en tant qu'être incarné, nous avons ces 12 enveloppes. Donc la mémoire de l'eau se joue sur 12 dimensions. Alors, je sais que pour l'instant, les successeurs de Benveniste, ils ne savent pas tout ça encore, ils en sont encore « Ah, l'eau a de la mémoire !» D'accord, très bien. Quand ils comprendront qu'il y a 12 fréquences différentes d'encodage, là, il va falloir qu'ils se rapprochent un peu de mon blog, pour qu'ils comprennent tout ça. Et le truc, c'est que cette eau encodée, c'est pour ça qu'elle monte en puissance, elle va commencer par la 1D, elle va commencer par le premier niveau, et puis ensuite le deuxième niveau, le troisième niveau, et ça s'appelle la montée en puissance. Donc quand vous avez une eau qui commence à dépasser le 10 puissance 1000, dites-vous bien que vous avez dépassé la notion de 3D, 4D, qui s'arrête, excusez-moi, comment, à, on va dire, à quelques enveloppes de base qui généralement s'arrêtent, on va dire, au corps énergétique, c'est-à-dire à la deuxième dimension. Donc, quand quelqu'un mesure en unité de vie, s'il regarde la deuxième dimension, troisième, Alors, bon, moi, ça faisait sourire un petit peu quand on dit « Ah, on va mesurer ton corps spirituel. » Très bien, il y avait beaucoup de zéros. Eh bien, dites-vous bien que quand vous avez de l'eau encodée, V2, qui monte à 10 puissance 1500, imaginez comment vos corps, vos enveloppes à vous, vont être nettoyées. Donc, c'est pour ça que je dis, allez-y mollo, suivez ce que votre corps, allez-y, tranquillos, mais ne vous la jouez pas, ouais, non, mais moi je tiens le coup, il n'y a pas de problème, je vais me boire un mono de référence, s'il y en a encore une. Si vous avez de l'eau à 10 puissance 1500 puis que vous la buvez au boulot, c'est sûr que vous allez avoir des problèmes. Vous allez avoir des problèmes, je le dis, hein. Donc c'est pour ça qu'il faut y aller mollo. Par contre, si on balance de l'eau 10 puissance 1500 dans la Loire ou dans le Rhône, vous inquiétez pas, ils diront merci parce que franchement, on en avait besoin. Hein? Donc c'est pour ça que je dis, il y a toujours cette notion d'encodage, une chose, et ensuite de puissance. Et donc la puissance, c'est que l'encodage, c'est que vous avez atteint, on va dire, le premier niveau, ça y est, papa. Et puis après, eh bien, le programme va pouvoir aller nettoyer les autres niveaux. Et c'est pour ça qu'on tend vers une puissance infinie. Imaginez, quand on dit 10 puissance 1500, ça fait 1500 zéros après le premier chiffre. C'est incalculable et c'est normal, puisque dès que vous changez de dimension, eh bien, automatiquement, ça tend vers l'infini. Et donc, la science quantique dit, c'est si on trouve des forces inimaginables au niveau de l'atome, c'est parce qu'on passe dans une autre dimension, qui n'est pas celle dans laquelle nous vivons. Donc, quand nous parlons du nom encodé V2, nous parlons du nom d'abord de 5D6D, c'est-à-dire qu'elle est là pour, on va dire, effacer toutes les mémoires nécessaires, au moins, on va dire, sur les 4 premiers niveaux, pour pas dire 5e et 6e, et si vous voulez vraiment être en 5e, 6e, eh bien, il va continuer le décrassage jusqu'à la 12e. Donc, les niveaux de puissance sont infinis. Alors, on tombe bien, il y a Yannick qui parle de l'utilisation du pendule. Déjà, ce qui est génial, c'est l'idée d'avoir mis en place un point de référence fixe. Donc, si j'ai bien compris, à l'instar d'une simple lecture, Dolvis, qui n'est pas comparable avec un autre expérimenteur, ici, on aura des résultats de lecture universelle et que l'on pourra comparer directement avec n'importe quel autre expérimentateur. C'est bien ça, oui, hein, puisqu'il faut déterminer, on va dire, une référence. Donc, le nouveau cadran U2P implique bien de passer en unité locale du petit poussé, si c'est bien le cas. Pourquoi alors posons-nous une question où l'on demande une réponse à l'unité Bovis? Alors, l'unité Bovis, c'est par rapport à, on va dire, quand je parle de l'unité 2P, c'est qu'on parle en 10 puissance de quelque chose. Ok? Mais ces 10 puissance de quelque chose sont basées sur une unité qui s'appelle Bovis. Parce que quand tu dis, voilà, ici on est à 30 unités Bovis, tu es à 3, 10 puissance, 4. Ok? Simplement, Bovis, lui, quand il était déjà en puissance 4, il était heureux. En puissance 5, il aurait dit là, ça commence à devenir exceptionnel. Mais alors, quand tu lui dis, on va être en puissance 20, alors là, il dit, c'est impossible. Quand tu lui dis, on va être en puissance 1000, alors là, il dit, t'es complètement pareil. Mais n'empêche que c'est basé sur l'unité Bovis. Alors, quand nous serons passés en 5D6D, croyez-moi que l'unité Bovis, on va la gicler ailleurs, on va la virer. Pourquoi? Parce que c'est une unité qui est basée sur la 3D4D. Pour l'instant, nous mesurons par rapport à un élément 3D4D. Parce que, dites-vous bien que le monde dans lequel nous sommes actuellement, nous sommes en l'an 2, même pas un an et demi. Ça fait un an et demi qu'on est dans le nouveau monde, enfin dans la fréquence du nouveau monde, donc on est au tout début. Ce qui veut dire que grosso modo, 86, si je prends ça comme ça, ça veut dire que 98,5% sont encore en 3D4D. Donc nous faisons ça par rapport à ça. Mais le jour où on dira, la référence c'est 10 puissance 1000, on dira plus unité Bovis. Et là, à ce moment-là, au lieu de parler de 1500 ou de 2500, on dira, voilà, là, on est à 15, là, on est à 20, là, on est à 25. Mais ça sera par rapport à 10 puissance 1000. Donc, c'est toujours une histoire de référence. Quand le millimètre est plus suffisant, après, on prend les mètres. Hein. Et puis, si le mètre n'est pas suffisant, on prend des kilomètres. Et si le kilomètre n'est pas suffisant, on parle en années-lumière. Donc, c'est juste des références. Donc, pour l'instant, l'U2P, c'est simplement des 10 puissances de quelque chose basées sur l'unité Bovis. Alors, j'ai du mal aussi avec les notions de dizaines et de centaines, tout en sachant qu'on ne parle même plus d'unité dans cette ultime version. Donc, pour faire concret, si je reçois un premier chiffre 3 et un second 2, ça donne 3 fois 10 puissance 2. Alors, ça, c'est vachement bien. C'est encore la lecture, on va dire, version V1. Hein. Donc, là, je sais que, pareil, il y a des gens qui ont du mal à comprendre ce que j'écris. Donc, j'ai fait quand même une version 4A, hein, qui a été corrigée légèrement, mais je sais que si je fais pas une vidéo, ça va toujours être un petit peu difficile. Parce qu'à chaque fois que je monte le cadran à quelqu'un, que je prends le produit et je lui montre comment faire, et ben, il dit, bah oui, mais c'est évident. Voilà. Donc, des fois, les choses sont tellement évidentes qu'on ne mesure plus le premier chiffre. En U2P, on mesure une puissance, point barre. Donc, il faudra toujours demander, par rapport au cadran que j'ai fait, quel est, entre guillemets, sur quel cadran il joue. Donc, c'est tout. Donc, est-ce qu'il joue sur le cadran des centaines ou sur le cadran des milliers? Enfin, on verra, je vous expliquerai ça tout ça dans la vidéo. Je vous dis, c'est une simplicité enfantine. Une fois qu'on a compris, on se dit, mais putain, mais j'étais con, j'étais bouche à l'oreille, j'étais quoi, là? Alors, vous allez me dire, c'est normal, quand on sait pas, on sait pas. Mais prenez un petit peu de recul et réfléchissez un peu, quand même. Je vous ai mâché le boulot, mais bon, je vais quand même pas vous prendre le pendule à votre place, quoi. De toute façon, une chose est claire, c'est que je remarque que là, pour l'instant, j'utilise encore le pendule, mais le pendule est devenu presque un accessoire. C'est-à-dire que maintenant, avant même qu'il bouge, je sais. Donc, et c'est ce que dit nos guides. Ils disent, le plus grand des pendules que vous avez, c'est votre corps. Et donc, lui, il sait. Puisque quand vous allez demander quelle est la puissance, enfin, de l'eau qui est encodée, eh bien, c'est qui vous répond? C'est votre petite voix, c'est votre soi supérieur. Donc, moi, c'est pour ça, je dis, petite voix, est-ce que tu peux me dire? Et elle me dit, quoi. Donc, une fois que vous êtes OK, c'est bon, quoi. Vous n'avez même plus besoin du pendule et d'un cadran. Voilà, donc c'est pour ça, le pendule est une béquille, et c'est une béquille nécessaire pour l'apprentissage, d'accord? Mais une fois que vous savez, c'est plus la peine de vous en servir. Mais vous allez le voir au fil du temps. Pour ça, bah, souvent, quand j'ai tourné mon cadran à 360 degrés, on m'a dit, ouais, mais moi je préfère un demi-cercle, parce que quand il gigote, je sais pas si c'est d'un côté ou de l'autre. Ben, ta petite voix, tu sais tout de suite, parce que tu vois qu'effectivement, ton pendule va plus d'un côté que vers un autre, déjà. Donc, c'est une histoire d'habitude, et je peux vous dire que vous allez rapidement. Plus vous allez vous décrasser, entre guillemets, plus vous allez récupérer, bien sûr, vos capacités de ce corps humain, de ce véhicule que l'on a. Et vous allez voir qu'il est, il est capable de faire des choses incroyables. Donc aujourd'hui, j'utilise encore le pendule, mais je peux vous dire que le pendule, il met pas une minute pour me dire la valeur. C'est quasi, pas instantané, mais quasiment. Je peux dire que quand dès que je mets le pendule, dans la seconde, même pas à la demi-seconde, il me dit déjà dans quel cadran que je suis, et dans la seconde qui suit, il me dit exactement. Et point barre, c'est-à-dire qu'une mesure avec mon pendule me prend quelques secondes. Je vous dis, et je garde le pendule juste pour dire, ouais, bon, alors est-ce que t'es sûr? Parce que dans la réalité, il m'a déjà donné les chiffres. Pourquoi j'ai mon regard qui va tout de suite vers le chiffre? Et tout, ça y est, je sais. C'est donc, et c'est pour ça que je commençais à être un peu gavé avec ce pendule, parce que c'est long, ça avance pas, et alors vous pouvez l'avoir en direct. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, nous sommes en entraînement avec nos guides pour déterminer aussi les cours d'eau, les lignes Hartmann, tout ça, et sans pendule. Sans pendule, sans aucun instrument. Donc pour l'instant, on utilise ces instruments pour nous sensibiliser suffisamment. Et une fois qu'on a capté, ça y est, ça roule. On est capable de pouvoir sentir maintenant aujourd'hui, on va dire, des portes dimensionnelles. Donc, on peut détecter des lignes Hartmann, on peut détecter des cours d'eau, on peut détecter tout ça. Et sans avoir besoin de quoi que ce soit d'extérieur à nous pour pouvoir le mesurer. Et ça, vous allez tous le faire, tôt ou tard, vous allez voir. Donc, quand vous allez encoder l'eau ou les rivières et tout ça, vous allez le sentir. Vous allez vous pointer sur la berge ou sur le pont et dire, bon, quel est où en est l'eau, là? Et puis, votre corps, vous dites, voilà, entre ça et ça, ok, oui, non, ok. Puis vous allez voir, à un moment, il vous dira tout de suite le chiffre. Vous dites, ok, et vous pourrez suivre. Vous n'aurez même pas besoin de dire, je sors mon pendule, mon cadran, je mesure, je prélève l'eau. Pff, rien. Mais bon, Vous allez peut-être pas y croire parce que vous dites non, non, je suis pas capable de tout ça. Mais vous l'êtes. Une question de Fred. Quand on ne peut mesurer la puissance de l'eau codée, comment ne pas en abuser et la tester? Le truc, c'est que de toute façon, plus tu vas boire de l'eau encodée et plus tu vas augmenter ta sensibilité. Et donc, arrive à un moment, obligatoirement, tu vas sentir quand une eau est un peu trop forte ou pas. De toute façon, une chose est claire. C'est comme les régimes, tout ça, quand vous voulez manger, c'est à suivre ce que votre corps vous dit de faire. Simple. C'est pas plus compliqué que ça. Si vous dites non, tu bois pas beaucoup, tu bois de l'eau une autre, sentez-le. Parce que si vous voulez, vous goinfrez une demi-bouteille à 10 puissance 1000 cul sec, peut-être que vous allez avoir des soucis quand même. Bon, allez, je passe un certain nombre de questions, surtout Yannick qui était concernant le cadran. On verra, ça sera répondu par une vidéo. Parce que j'aimerais terminer les questions, parce que je voudrais quand même parler de la tournée d'encodage quand même. Technique et effet de haute consommation. Une question de Claudette. Si je mets une bouteille en verre contenant un cristal C2P dans le réfrigérateur, cela permettra-t-il à toute l'alimentation d'être encodée? Faut faire l'essai. Alors, tout ce que je sais déjà, c'est que si tu fais un feu du cœur, forcément ça sera encodé. Parce que le feu du cœur, apparemment, amène une propagation supplémentaire. Alors, d'après mes dires de certains, l'eau encodée aurait déjà une propagation. L'encodage V2 a déjà une tendance à se propager. Alors avec un feu du cœur, c'est évident que ça va se faire. Une question de Yannick. Si j'ai bien suivi ce tel niveau énergétique de la version V2, certes de passer tous nos fruits et légumes dans l'eau V2 devient une évidence, mais alors il semble logique que de se préoccuper à trouver des légumes bio devient un coût, du coup très secondaire, voire totalement superflu. Enfin, écoute, le truc qu'il faut voir, c'est que nous maintenant, comme on balance tout dans l'eau, si tu as pu voir, l'eau change de texture. Et tu dis, c'est quoi cette texture? Est-ce que c'est les produits chimiques ou les saloperies qu'il y avait dans les légumes? Ou est-ce que, simplement, l'eau redécouvre ses capacités initiales? Car je vous rappelle que l'eau primordiale s'appelle la mer. Or, la mer, elle a une texture. Quand vous la prenez, vous la sentez qu'elle est un peu gluante, qu'elle a une densité, que c'est pas de l'eau cristalline de la montagne. Et donc, cette eau de mer est comme un plasma. Et en fait, il semblerait que plus l'eau encodée monte en puissance, et quand elle est mise avec du vivant, même si c'est une tomate que vous avez coupée ou un concombre, eh bien, il semblerait que dans son rôle de décodage, et parce qu'elle est en contact avec de l'eau qui a été déjà traitée par un légume, eh bien qu'il y aurait comme un plasma qui se ferait. C'est-à-dire que l'eau redevient nourrissante. Alors, après, on revient toujours à la même chose, légumes bio ou pas. Alors, bio, ça veut dire qu'il théoriquement n'a pas reçu de chimie. Enfin, je dis théoriquement, parce qu'il faut me prouver aujourd'hui que quelque chose n'a pas reçu de chimie. Puisque même la simple flotte qui tombe du ciel, t'es pas sûr qu'il n'y en ait pas. D'accord, donc, disons que le bio a moins de chimie que les autres. Bah, reste à faire les essais. Donc, tu prends deux bocaux, tu mets des carottes bio ou des tomates bio d'un côté, puis tu prends des carottes industrielles, et puis tu regardes les différences de goût, les différences de choses, et s'il n'y a pas que si ça s'aplanit des deux côtés. Faut regarder. Parce que peut-être que en prenant un légume, on va dire classique, et que vous lui dites, je le mets dans l'eau bio, enfin dans l'eau encodée, et je lui balance un feu du cœur, peut-être que à ce moment-là, vous aurez peut-être plus besoin d'acheter du bio. Et par sécurité, comme dirait l'autre, l'aspect chimique, moins t'en as, mieux ça vaut. Mais arrive un moment, est-ce que votre corps sera capable de faire la différence? Vaut mieux peut-être avoir un truc industriel monté à 10 puissance 300 qu'avoir un truc bio qui est à 10 puissance 3. Voyez, donc, faites les essais, et puis faites-nous part de vos essais, comme ça les autres ils sauront, et puis ils feront des essais à leur tour, et puis etc. Mais si personne ne dit rien, et ils n'écrivent rien, et ben les autres ils vont pas essayer de faire pareil ou dire leur propre expérience. C'est, je vous rappelle, c'est dans le partage et dans la communication qu'on avancera le plus. Et c'est pas en faisant ces petits trucs de son côté, en disant rien aux autres, que se dire, ah ouais, bon, il y a personne qui écrit, donc il doit rien se passer, on sait pas ce qui se passe. Non. Alors, une question de Anne. Un, si je comprends bien, Tuto est encodable avec petit poussé, aussi crasseuse soit-elle, l'eau bouillie, itou, et donc l'eau distillée, ozonée que nous nous procurons. Donc, je peux déposer un petit poussé dans le réservoir qui reçoit régulièrement nos 11 litres d'eau distillée. Et plus besoin d'alu et boîtes de conserve ainsi sur la base. Bon, ben d'accord. De toute façon, c'est pas difficile. Mettez un cristal partout où vous pouvez, où il y a de la flotte, et puis comme ça, vous êtes là. Quant à caler un petit poussé dans la pomme de douche ou celle de levier de cuisine, est-ce efficace? Le temps d'encodage n'est-il quasi nul? Alors, là, je souris encore, parce que c'est une vision très limitée de la 3D. On se dit, tiens, je mets un cristal, donc si j'allume l'eau, j'ouvre le robinet, eh bien, est-ce que l'eau aura le temps d'être encodée? Bien, maintenant, je vais vous poser la question différemment. Pendant que vous ne tournez pas l'eau du robinet, d'après vous, l'eau qui est dans la tuyauterie va-t-elle être encodée ou pas? Parce que croyez-vous que votre cristal va encoder seulement l'eau qui sort? Dit autrement. Bien sûr, il y a un robinet qui coupe l'eau, d'accord. Mais il faut savoir que les robinets, même s'ils semblent étanches, il y a quand même quelque chose qui se passe dans la V2. Et donc, globalement, si vous mettez, vous savez, par exemple, je prends la chasse d'eau, une chasse d'eau. Vous dites, voilà, il y a un robinet, mais il est toujours ouvert, la chasse d'eau. Simplement, c'est le clapet pour qu'il l'emmène dans la fosse septique qui est fermée. Et quand vous mettez un cristal dans la chasse d'eau, eh bien, qu'est-ce que fait l'eau? Elle va encoder toute l'eau. Et elle va remonter dans les tuyaux. Et elle va encoder toute l'eau qu'il y a dans les tuyaux. Donc quand vous mettez, par exemple, un cristal petit poussé dans vos filtres à l'arrivée d'eau de votre maison, eh bien, lui, il va encoder, bien sûr, l'eau qu'il y a dans la baraque, mais il va aussi aller encoder celle qu'il y a sur le réseau public. Est-ce que vous avez vu sous cet angle aussi? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut pas penser uniquement dans le sens du débit. Il faut aussi savoir qu'une vibration, ça remonte. Donc, automatiquement, quand vous allez ouvrir l'eau du robinet, qu'est-ce qui vous dit que la vibration, elle, va pas plus vite que le débit que vous êtes en train de sortir? En clair, l'eau encodée qu'il y a eu dans votre robinet, parce qu'admettons que votre robinet, il a un petit tuyau qui passe 25 cm, ben, là, il y a de l'eau. Et donc, quand vous allez ouvrir, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui nous dit que la vibration va pas passer de l'autre côté de votre robinet et aller contaminer tout ce qu'il y a dans le réseau de la ville? Parce qu'en plus, comme vous aurez fermé le robinet et que pendant toute la nuit, il aura bossé, elle sera peut-être montée à une puissance que vous n'imaginez pas. Donc, croyez-moi que quand j'aurai fait la vidéo, entre guillemets, sur l'application domestique des deux petits poussés, vous allez comprendre que aller encoder les cours d'eau est une chose importante, mais aussi que partout où vous allez pouvoir mettre des cailloux, il va y avoir un effet. Obligatoirement. Que ça soit l'eau de la fosse septique, que ça soit l'eau pluviale, que ça soit n'importe quoi, de toute façon, l'eau, elle circule. Et comme c'est une vibration, cette vibration peut remonter. C'est-à-dire que si même je balançais les cailloux en bas d'une cascade, eh bien on pourra mesurer en haut de la cascade, entre guillemets, et on verra que l'eau est encodée en haut de la cascade. La vibration remonte, quoi. Mais ça n'arrive pas juste au débit, c'est pas un bouchon de liège. Hein, c'est quelque chose qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus assez vibratoire, tout simplement. Hein? Alors, un hic, est-ce micro-ondes fortement utilisé par mon mari? Une fois retiré du four, peut-on compléter par de l'eau, petit poussé, comme pour l'eau bouillie, bien sûr. De toute façon, le micro-ondes est une chose évidente, c'est qu'il n'apporte aucune pollution chimique. Donc ça veut dire qu'il ne change rien à l'état chimique moléculaire. Ah bon, on y casse un peu des choses, mais bon, voilà. Mais en termes d'information, je peux vous dire que c'est pourri jusqu'à l'os. C'est-à-dire que comme en plus le micro-ondes est basé sur la fréquence de l'eau, je peux vous dire que quand vous faites tourner le micro-ondes, vous ne faites pas un cadeau à l'eau et à toutes les mémoires qu'elle possède. Hein. C'est-à-dire que vous lui envoyez de la saloperie, je dirais que à la rigueur, c'est peut-être pire que l'eau de la centrale nucléaire. Mais bon, je sais que c'est très pratique le micro-ondes, hein, je l'ai utilisé quand même pendant pas mal d'années. Mais si j'avais su tout ça, croyez-moi que j'aurais viré mon crâne depuis fort longtemps. Mais bon, je l'ai viré. Mais bon, ce qui est fait comme. Des cristaux, une question de Michel. Des cristaux non programmés peuvent-ils entrer en résonance avec les V1 ou des V2 placés à proximité? Oui, ça c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au niveau moléculaire, ils peuvent prendre bien sûr l'information. C'est-à-dire qu'un cristal va, d'une manière superficielle, pouvoir refiler l'information. Simplement, le cristal qui aura reçu l'information ne pourra pas tenir l'information dans le temps. Effet dans la nature. J'ai mis un cristal de roche dans une baignoire de 200 litres environ avec de l'eau de pluie un peu verdâtre. Mais au bout de 3 jours, aucun changement. Je n'avais pas de pendule pour vérifier la dynamisation. Est-ce normal, docteur? Alors, de pas avoir de pendule, non, ça c'est pas normal. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on dit un peu verdâtre, j'ai jamais dit que l'eau allait redevenir vivante. Pas vivante, je vais dire claire, limpide, etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que le petit cristal, alors il faut savoir si c'est un V1 ou si c'est un V2. Le V2 sera plus puissant que le V1, d'abord, et qu'il lui faut un certain temps, parce qu'on a une notion de quantité d'eau à informer. Donc, si tu veux vraiment qu'il y ait quelque chose de qui booste, là, mets 3 cristaux, et puis mets moins d'eau dans la bassine, et puis regarde ce qui se passe. C'est sûr que si tu dis « Ah, moi, j'ai jeté un caillou dans le lac Léman et je vois pas le lac Léman qui bouge. » C'est sûr que là, réfléchissez un tout petit peu quand même. Pensez pas que en prenant juste un petit caillou comme ça, vous allez pouvoir encoder des kilomètres cubes. Vous savez, un petit caillou, 200 litres, c'est ce que c'est. Puis après, il faut voir c'est quoi cet aspect verdâtre qui est dedans. Parce que cet aspect verdâtre, ça peut être simplement des algues. Et on n'a jamais dit que la V2, ça tuait les algues. Parce que peut-être c'est super vivant, alors maintenant t'as qu'à balancer les poissons rouges dedans et puis on va voir ce qui se passe. Est-ce qu'ils font la gueule ou est-ce qu'ils sont heureux? Et là tu verras s'ils sont heureux qu'ils jouent bien de la queue, tu diras « Ah ouais, la V2 a fait quelque chose ». On n'a jamais dit que la V2 allait nettoyer les algues. Parce que c'est de la vie les algues, je signale. Alors, je bois de l'eau encodée, une question de Daniel. Depuis que j'ai les cristaux de roche, je n'ai pas remarqué de gros bouleversements, sauf une sudation un peu plus importante et un peu malodorante. Bye bye toxine. Oui. C'est-à-dire que tu vas suer plus. C'est normal parce que ils essayent d'évacuer déjà la merde. Et donc forcément, si ça pue, c'est normal, c'est la merde. Alors c'est bon signe. Effet météo des cristaux. Bonjour, je m'interroge sur cette semaine de pluie, crachin et brouillard persistant sur une grande partie de la France alors que beaucoup de cristaux venaient de disséminer un peu partout. As-tu des infos à ce sujet? Alors les infos, c'est que pour l'instant, ce n'est pas vraiment à cause des cristaux qu'il y a eu tout ça, mais à cause de la superlune. C'est-à-dire que pendant que toutes les avaient la superlune, il fallait qu'il y ait une grande conductivité pour qu'on en soit fortement impacté. Et puis après, cette grande conductivité, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu, on va dire, du gros soleil bien fort, qui, lui, c'était comme des rues pour nous terminer, pour nous ciseler. Et après, qu'est-ce que ça a fait? On a eu le droit à des orages, c'est-à-dire à beaucoup d'éclairs, etc. Donc ceci, ce sont des phénomènes météorologiques dus à la superlune et au programme d'encodage dans lequel nous sommes, qui est celui de du Nouveau Monde. Donc il est évident que les cristaux encodés vont apporter leur petit plus. Il est évident, mais pour l'instant, il n'y a pas trop de monde qui en bénéficie. Alors que le phénomène météorologique qu'on a reçu récemment était vraiment pour une grande partie, on va dire au moins pour la France. Je vous rappelle que la France est vraiment pointée du bout du doigt, quoi. C'est là que ça se passe. Ok, ça qu'il faut comprendre. Une question de Timo. Question purement 3D, à la fois perso et qui peut concerner pas mal d'entre nous. La médecine du travail nous oblige à certains vaccins dits obligatoires ainsi que mis à jour. Personnellement, j'en suis pas très friand et je m'en méfie. À supposer que je les fasse une fois sous l'effet de l'eau de paix, quand j'aurai les pierres, celle-ci ne va-t-elle pas éliminer les effets néfastes des dits vaccins? Si c'est le cas, tant mieux, et je serai en règle vis-à-vis de cette vie professionnelle qui déjà nous plombe. J'en ai un peu honte pour la question, vraiment terre à terre. Écoute, c'est simplement faire les essais. Donc, si tu te fais vacciner parce que c'est obligatoire, parce que si, parce que si, parce que ça, tu le fais. Mais rien t'empêche de te doper derrière pour que ça supprime tous les effets nocifs. C'est tout. Hein. Mais moi, j'irai pas me faire vacciner pour voir si ça marche ou pas. Je vais déjà foutre un défunt. J'ai pas de cette obligation. Donc, voilà. Alors, une question de Claudette sur les bébés. Les mamans ont souvent l'habitude de donner de l'eau des viands à boire à leur bébé, voire même préparer le biberon avec. Je suis sûr qu'un de ces deux P va améliorer l'eau. Mais faudra-t-il faire attention à la quantité d'eau que le bébé pourra avaler, surtout au début? Tous les biberons de la journée pourront-ils être réparés avec, ou faudra-t-il limiter la chose? Alors là, bah, c'est pareil. Je peux rien dire parce que j'ai pas de bébé sous la main et je peux pas faire les essais. Une chose est claire, c'est que comme c'est quand même des petits bouts de chou, eh bien, ils sont quand même moins encrassés que nous. Faut quand même le reconnaître. Hein. Ils ont pas le bébé, il a pas attaqué le hamburger, il roule pas la mayonnaise et il a pas bu encore son quintal de bière. Donc, ce que je veux dire, c'est que les précautions qu'on pourrait prendre par rapport à des adultes n'est pas forcément le cas par rapport à des bébés. Mais quand même, comme dirait l'autre, un peu de sûreté, c'est-à-dire si vous donnez de l'eau de thé à votre enfant, enfin au bébé, eh bien allez-y à petite dose et voyez ce qui se passe, et puis après vous augmentez les doses. Et si vous voyez qu'il n'y a pas de réaction violente chez lui, c'est que ça baigne. Si par contre vous lui donnez de l'eau de thé et puis il a une chasse carabinée, vous dites « Ah, ça a décrassé, très bien, alors on va faire un petit peu pause, et puis on va réessayer un petit peu plus tard. » Et puis vous voyez, et puis si vous voyez que ça n'a fait qu'une seule fois, et que après tout baigne, ça veut dire qu'il avait vraiment évacué les saloperies. Hein. Donc là pareil, c'est et puis vous avez un pendule qui est votre corps, vous prenez un pendule de pierre, vous demandez à votre petite voix, elle dit est-ce que le mot de paix là est ok pour mon bébé? Là vous répondez, c'est votre soi supérieur. Vous croyez qu'il communique pas avec le soi supérieur de votre bébé? Donc ou adressez-vous directement au soi supérieur du bébé et dire ouais, écoute. Petite voix, peux-tu me dire si c'est ok par rapport à ce que je te donne? Vous voyez que l'utilisation du pendule matériellement est importante, mais votre pendule intérieur l'est tout aussi, et la capacité de pouvoir communiquer avec la petite voix, la vôtre et celle des autres. Donc vous voyez qu'on a quand même des artifices, on va dire, extérieurs, matériels, qui peuvent nous permettre de pouvoir, savoir ce qui se passe. Moi maintenant, j'utilise mon pendule intérieur depuis belle lurette. Belle lurette, tout est relatif. Hein. Je connaissais cette technique au moins depuis 10 ans, mais je l'ai véritablement mis en pratique, on va dire, il y a 9 mois, 1 an, quoi, grand maximum. Et c'était pour la recherche de vortex, et tout simplement, il a fallu que je demande confirmation avec mon corps, avec l'effet pendule du corps. Et maintenant, je demande confirmation pour tout. Quand je dis, bon, j'ai un dopage vibrage, est-ce que je peux faire maintenant? Non. Oh, ok. Bon, je peux casser la croûte, là? Oui. Ok. Je vais casser la croûte. C'est-à-dire que, maintenant, pour un oui, pour un non, je demande. Je m'emmerde plus à dire, ouais, bon, alors, je fais quoi? Je pose la question. Je dis, voilà, bon, est-ce que je peux faire ça? Oui. Ok, c'est bon. Ça, là? Non. Bon, ok, d'accord. Voilà. Et donc je suis gouverné par ma petite voix, on va dire, mais d'une manière, naturelle, dans le sens où je pose la question. Dès que j'ai un truc, je pose la question et ça me répond. Voilà. Et ma vie est devenue beaucoup plus simple et je m'ennuie pas parce que des fois, vous voyez, par exemple, je prends de la faim. On se dit, oh là là, ça, je commence à avoir l'estomac, j'ai faim. En fait, dans la réalité, c'est que votre troisième chakra commence à se débloquer. Et en fait, c'est pour ça que ça couine et puis que ça vous fait un peu mal à l'estomac, parce qu'il est en train de se débloquer. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va se goinfrer. Donc, ce qui fait que ça le rebloque. Donc après, dire, ça y est, je suis retenu, tout va bien, j'ai plus faim. Et en fait, ça, c'est un programme involutif. Dans la réalité, quand ça vous fait un peu bobo là au niveau du plexus, et que ça vous creuse un petit peu, eh bien, dites-vous bien que ce n'est pas forcément la faim, mais simplement votre troisième chakra qui est en train de reprendre une vitesse de croisière, on va dire, parce qu'il était grippé. Enfin, il essaye de se remettre en route sérieusement. Hein? Alors, faut pas confondre un chakra qui tourne et un chakra qui est dit fermé. Hein? C'est-à-dire qu'ils sont toujours ouverts, mais c'est comme un robinet, ça peut faire du goutte à goutte et il est ouvert. Hein? Donc il y a une différence entre le goutte à goutte et le gros jet d'eau, quoi. Donc dès que la quantité d'eau commence à être importante, eh bien forcément ça fait du bruit, vous savez, le robinet commence à vibrer, ça fait marrant dans toute la tuyauterie, quoi. Alors on ouvre plus grand pour en essayant de faire que ça dure le moins longtemps possible. Le seul truc, c'est que quand on a ce genre de choses, eh bien au lieu d'ouvrir le robinet, on le referme. Bon, et puis forcément, comme on referme, il n'y a plus de bruit dans la tuyauterie. Et on dit voilà, c'est super. ça y est, j'ai plus faim. Donc, dites-vous bien que le programme de la faim, tel qu'on nous l'a appris, est un programme aveugle. La véritable faim, c'est pas ça. Voilà. Donc, c'est pour ça que maintenant, systématiquement, je demande à la petite voix. Et quand ça me travaille, je dis, bon, est-ce que je dois manger là? Et souvent, elle me répond, bon. Donc, je prends un coup de flotte, ça roule. Vous voyez? Derrière des choses qu'on croit connaître et qu'on se dit, ouais, ça c'est du sur, c'est du béton. En fait, dans la réalité, c'est du trafic qui est total. Bien. Alors, je vais m'arrêter là pour les questions. Voilà. Et je vais passer donc à la troisième partie. Qui va correspondre quand même, c'est important, à ma tournée, on va dire, d'encodage.